bande originale du lundi au vendredi sur France Inter à partir de 11h. Bonjour et soyez les bienvenus dans le meilleur de la bande originale avec Leïla Kadoboudadi, Daniel Morin, Tom Villa, Marina Rollman et Tanguy Passureau. Programme aujourd'hui, Nicolas Duvauchel, la bande originale de Delphine de Vigan et en live General Electric. Le meilleur de la bande originale, c'est parti.
Quel accueil, dis donc.
Ben ouais, chaleureux.
Un accueil
féminin en majorité. N'humilions pas tout de suite les quelques garçons glissés au milieu de ces ravissantes personnes.
Les lâches.
Un accueil liégeois. Voilà, nous avons.
Liégeois.
Mais vous êtes. Croyez-vous. Nicolas Duvauchel, présent pour un film avec Jean Becker, parce que ça, c'est vraiment une signature. On a en tête évidemment L'été meurtrier, ou je pense particulièrement L'été meurtrier, puisque à côté de vous, dans ce film, se trouve le retour de François Cluzet devant la caméra de Jean Becker. Est-ce que vous avez senti quelque chose de particulier, d'émouvant dans le regard ou dans la...
Je crois que ça faisait 35 ans, donc
c'est ça.
Hein. Ouais. Donc c'était mignon. C'était très mignon de voir se regarder comme ça. C'était très.
Et vous, c'est
très
la première fois que vous travaillez avec Jean Becker?
Oui, c'était un réel plaisir, ouais.
Et là, on a le sentiment de... parce que je crois qu'en total, dans sa carrière, il y a plus de 25 millions de spectateurs qui ont pu voir ses films. Est-ce qu'on se dit, je tourne avec un monument? Je ne sais pas quel nom on peut donner, mais est-ce qu'on a ce sentiment-là?
Ah bah ouais, complètement. Et puis même le
gars... Ou est-ce qu'on se dit juste, je tourne avec un vieux monsieur?
Non, on tourne avec un monument. Et puis il est assez impressionnant. Hein, donc voilà, il est très grand, il est super costaud.
C'est
et puis il a une grosse voix comme ça. Donc,
donc plus grosse que vous, pas.
Ouais, je me suis senti tout petit.
Et est-ce que ça se vérifie dans l'expérience? C'est-à-dire il a une façon de diriger particulière avec toutes ces années et tous ces films à son actif?
En tout cas, sur l'écran, on n'a pas le sentiment de voir, enfin, voir un film extrêmement actuel. Quoi.
Contemporain.
Ah, ouais, complètement. Non, mais c'est marrant, c'est un peu l'ancienne école, donc il n'y a pas trop de filtres, il ne va pas te prendre entre quatre yeux pour te diriger. Voilà, il est derrière son combo et puis on l'entend. Mais non, c'est pas ça, je t'ai demandé. Mais non.
Quelqu'un d'humain. L'intimité, c'est non.
Non, il n'y a pas d'intimité, mais bon, c'est bien, mais il n'y a pas. Pas de non-dit, mais au début, c'est un peu surprenant.
Et on gagne du temps, il n'y a pas le côté vieux, il faut que je te parle dans ta loge.
Ah non, oui, il va tout droit à l'efficacité pure. Hein. C'est assez impressionnant.
Parlons du film. Le film a été une adaptation d'un livre, Le Collier Rouge, de Jean-Christophe Ruffin.
D'ailleurs, super bouquin.
L'Académie est très présente, puisque non seulement Jean-Christophe Ruffin a participé à l'adaptation de son livre pour le scénario, mais Jean-Loup Dabadie, également de l'Académie française, a participé à l'écriture des dialogues. Donc vous aviez intérêt à ne commettre aucune faute de français.
Ah non, et puis ça fallait savoir le texte par cœur.
C'est vrai. Ils sont venus sur le tournage.
Pression. Oui, il est passé Jean-Christophe, puis il a vu le film il y a un mois, on lui a présenté, donc il était très ému et ça fait plaisir de voir l'écrivain ému comme ça, quoi. Quand il voit il était très ému parce qu'il dit, ouais, c'est la première fois que je vois des images sur un de mes livres, donc il a eu sa petite larmichette.
Et lui qui écrit beaucoup avec des images, en plus, c'est un auteur peintre. Enfin, je veux dire, si on fait des catégories, auteur photographe, auteur peintre, tout d'un coup, à mon avis, oui, c'est sûr, voir sur grand écran ce qui a jailli de son esprit, ça doit être assez magique comme sensation.
Ah ouais, il était très ému. Donc
on a
fait notre boulot.
Il y a un vrai challenge aussi pour Jean Becker et pour toute l'équipe, c'est de rendre justement et de ne pas trahir ce livre qui se passe pendant la Première Guerre mondiale et donc avec des scènes de guerre, de tranchées, avec ses poilus, donc avec tous ces figurants. Et c'est vrai qu'il y a du monde et on n'est pas déçu. Alors on n'est pas dans Il faut sauver le soldat Ryan, on n'est pas dans les super productions américaines.
On n'a pas les mêmes moyens non plus.
J'ai le sentiment qu'on est dans une super production française en tout cas.
Oui, mais c'est vrai que.
Rien n'est pauvre à l'image.
Non. Et puis on a fait beaucoup de passages aussi. Enfin, il a fallu refaire pas mal de prises pour rajouter un peu de monde. Voilà, mais c'était très agréable à faire. Mais il y a eu quelques petits soucis sur les scènes de baston. Il y a eu quelques petits accrochages. Mais
je crois que vous avez vu surtout des problèmes avec le chien. On va en parler déjà en resituant l'histoire.
Oui.
Le chien.
On sent les ennuis avec le chien.
L'histoire donc d'un. c'est un juge militaire qui vient rencontrer le seul, l'unique prisonnier détenu dans la prison. Et c'est donc vous qui êtes le prisonnier et c'est François Cuvier qui est le juge. Devant la prison, devant la porte de la prison, un chien aboie matin, midi et soir au point de rendre fou le gardien de la prison qui ne peut pas fermer l'œil. Et la confrontation, ou en tout cas le face-à-face, un peu comme dans Garde à vue, si on veut d'autres références cinématographiques, mais le face-à-face qu'il y a entre vous et votre juge se fait avec quelques flashbacks parce qu'il essaye de reconstruire la raison pour laquelle vous vous retrouvez en prison. C'est ça. Parmi toutes ces raisons, il y a une histoire d'amour avec Sophie Verbeek, ah oui, qui l'interprète, en tout cas cette histoire d'amour, qui est la maman de votre unique enfant.
Le prisonnier que vous incarnez, Morlaac, reste mutique quant aux raisons de sa mise en prison, mais en tout cas il ne souhaite pas présenter des excuses, alors que s'il les présentait, il pourrait sortir quasiment automatiquement.
Il a insulté la nation, c'est un héros de la Première Guerre mondiale.
Légion d'honneur, voilà. Mais il ne veut pas revenir sur ses derniers actes et recouvrer ainsi la liberté, et il s'entête et il veut rester dans la caserne.
Et c'est le dernier dossier de son juge qui lui veut partir à la retraite peinard, voilà, sur une bonne nouvelle.
Et
qui se dit, je voudrais qu'on finisse bien cette histoire. Et d'ailleurs, dès le début, on sent que le juge est positif. Il lui propose, il va pas jusqu'à lui rouler une cigarette, enfin, il lui propose quand même du tabac et du papier à rouler pour qu'il puisse fumer une cigarette. Il lui propose de marcher à l'extérieur pour pouvoir dialoguer. Enfin, il tend plusieurs mains, quoi.
Oui, c'est, on va dire, moi, je suis un appelé dedans, donc je suis pas un militaire de carrière, je suis fermier, on vient pas du même milieu. Lui est plutôt un bourgeois, ouais. Ouais, un aristocrate, et puis c'est un militaire de carrière. Et ils vont, après l'expérience qu'ils ont vécue de cette guerre, ils vont, on va dire qu'ils tirent le même. Ils pensent la même chose de cette guerre là, qui était une boucherie vraiment insensée et inutile, et donc ils vont tendre tous les deux vers cette même je vais y arriver, excusez-moi, je suis un peu fatigué.
C'est un peu la fin de la semaine aussi, hein, vivement le week-end.
Voilà, et puis les enfants malades, ça fait mal.
Vivement le week-end.
Et donc ils vont tirer les mêmes conclusions, et donc ils vont se rejoindre un peu. Voilà, au début il est juge, il va devenir un peu son avocat, on va dire sur la fin, quoi. C'est ça qui est beau, il y a un peu ce cheminement de ces deux personnages qui vont se rejoindre vers la fin.
Et le chien qui est très présent, parce qu'on
découvre
le chien. C'est ça.
On découvre que ce personnage, ce chien, est presque à l'origine de l'histoire d'amour. C'était d'abord le chien de votre fiancé, mais qui vous a suivi, et qui vous a suivi partout, que ce soit sur un cargo réquisitionné, que ce soit dans le train pour partir au front, que ce soit dans les tranchées. Il est peut-être même la cause de la Première Guerre mondiale, ou en tout cas d'un moment de paix raté.
Exact, ouais.
Puisque tous les soldats sortent des tranchées pour se serrer la main en disant bon allez, faisons la paix, arrêtons de nous tuer. Sauf que le chien voit arriver des soldats ennemis,
ouais.
Et il attaque.
Et voilà. Mais ça a été assez compliqué les tournages avec les chiens et les enfants, c'est assez compliqué, on va dire. Voilà,
pour le niveau de la concentration. C'était quoi la difficulté là pour le chien ?
Il y avait deux chiens.
Il regardait jamais où il fallait, et puis il y avait beaucoup de figurants, donc à mettre en place c'était compliqué, et puis il faisait toujours une connerie à la fin, donc c'était assez.
Il y en avait deux, hein ? Deux bossons.
Ouais, il y en avait un pour qui était plus pour les scènes de bataille, combat, pour d'attaque et tout, mais l'autre qui était vraiment un peu qui était pas dressé, on peut le dire, hein. mais qui avait un très beau regard, et Jean voulait celui qui était pas dressé comme par hasard, donc on a un petit peu galéré, mais on a refait pas mal de prises pour lui, et... Waouh, ouais.
Mais le chien dit pareil de vous en interview. Nicolas Dubochel, très beau regard, mais quand même.
Nicolas Dubochel, très beau regard, il aboie pas mal.
Mais les problèmes de concentration.
Est-ce que vous qualifieriez ce film et donc le roman de plutôt une histoire d'amour ou aussi une rémission après la Première Guerre mondiale et un hommage au poilu?
C'est une histoire d'amour sur fond de guerre et tout. Et puis moi ça m'a vraiment plu de le faire, parce que moi j'ai mon arrière-grand-père qui a fait cette guerre, mes deux arrière-grand-pères, et c'était un sujet assez tabou. Je me rappelle, moi quand j'ai connu, j'étais tout petit, c'était un sujet assez tabou.
C'est-à-dire ça leur faisait mal de parler
ils en parlaient pas du tout, hein. Moi je voulais en parler un petit peu, savoir si c'est, voilà. Non,
il y a quand on voit les scènes dans le film, on comprend le traumatisme. C'est-à-dire que on l'étudie à l'école, on voit quelques images, mais c'est vrai que c'était du corps à corps.
Ouais,
c'était vraiment sanglant, en fait. C'était
ça
pas ressemble plus du tout aux guerres d'aujourd'hui.
Et puis psychologiquement, quand les soldats allaient au front, vous croisiez, comme si vous étiez, mais les soldats croisaient les gueules cassées qui revenaient du front sur des charrettes, totalement blessés, défigurés, amputés.
C'est violent. Millions de morts, mais il y a eu encore plus de millions de blessés, donc c'est vrai que ça a été une sacrée boucherie, et donc moi ça me tenait à cœur. En plus ma famille vient de la Somme, donc ça a été là le théâtre des opérations de la guerre 14, donc c'est quelque chose qui est dans la famille assez ancré, donc ça me tenait à cœur de faire ce rôle. Oui.
Nicolas Duvauchel, brillant comédien, et je trouve qu'avec François Cluzet, vraiment, vous faites une belle équipe pour ce film, Le Collier Rouge. J'espère, Tom Villa, que vous avez bien compris pourquoi Nicolas Duvauchel était là avec nous.
Bah oui, Nicolas Duvauchel qui vient seul ce matin, le chien est sur RTL avec Stéphane Bern.
on l'embrasse, ou pas. Stéphane est le chien.
Et on répète, le pitch pour ceux qui viennent d'arriver, Le Collier Rouge, c'est l'histoire d'un prisonnier dont le chien attend en aboyant devant sa prison. Voilà, je synthétise un petit peu, mais bon, j'oublie le rôle de François Cluzet et de Sophie Verbeek. Comme ils sont pas là, ils avaient qu'à être là. Nicolas Duvauchel et son chien, c'est un peu plus complexe que ça, parce que c'est vrai que dit comme ça, ça fait un peu Michel Drucker. Mais c'est vrai que je sens qu'il y a un filon en ce moment sur les animaux. Et quelques semaines, on recevait Johann Svar pour le chat, le chat du rabbin, Clovis Cornillac pour Belle et Sébastien 3. Aujourd'hui, donc vous, pour une histoire avec un chien. Je pense que dans 6 mois, je peux postuler pour 30 millions d'amis, ça, il n'y a pas de souci. En même temps, il faut rendre hommage à votre chien qui, dans le film, vous aide une fidélité, mais sans limite. C'est ça qui est bien avec les chiens, c'est la fidélité. C'est une notion qui est trop souvent oubliée dans les rapports humains, et comme par hasard, Daniel Morin n'est pas là aujourd'hui, donc je pense que l'exemple est bien trouvé. Mais c'est vrai qu'avec un chien, t'es jamais déçu. C'est ça qui est bien. Ça arrive jamais que ton chien rentre bourré à 3h du matin alors qu'il t'avait dit qu'il avait une grosse réunion de boulot. Ça évite les excuses bidons du genre, putain, on devait finir un dossier urgent sur une nouvelle marque de croquettes, et puis on est allé boire un coup avec les caniches du service compta. On a fait un crochet dans un bar, on était à deux doigts de se battre avec 3 bergers allemands, et puis il y a le Rottweiler du coussinet humide dans le 3e qui a pas voulu nous laisser entrer. Voilà, ça évite ce genre de situation. Alors la fidélité incarnée, le chien, c'est vrai que ce qu'il y a de bien, c'est qu'il t'aime quoi que tu fasses, du moment que tu le nourris. Même les enfants, c'est moins réglo. Regardez la tête que vous avez, Nicolas. C'est pas... il y a forcément un moment à l'adolescence.
Il est très beau, Nicolas, que ce que tu racontes.
Mais oui, mais on va...
Fatigué, mais beau. Voilà, mais même fatigué, il est beau.
Il y a forcément un moment où les enfants ils te méprisent, à l'adolescence ils te méprisent, tu leur donnes tout et ils te prennent pour un vieux con, alors que le chien jamais il te prendra pour un vieux con, pour un con, à la limite. Ah bordel, il est chiant à perdre sa balle tout le temps, en plus quel feignant, faut que je lui ramène, tu vois, ça c'est bien. En plus l'adolescence d'un chien c'est généralement tranquille, je veux dire, à la limite il y a quelques chaussures déchirées, un petit pipi de temps en temps dans la cuisine, mais ça va, je veux dire, on n'a jamais vu un labrador faire chier son maître pour avoir un scooter et le droit d'aller dormir chez sa meuf le vendredi soir. Et puis on le voit dans le film, le chien il reste là où est son maître, il attend sans bouger des heures et des heures, ça arrive jamais chez l'être humain, à part quand tu fais les soldes avec ta femme, mais non, mais il n'y a rien de personnel. Moi aussi j'adore passer 3 heures chez Zara pour au final ne rien acheter, il n'y a pas de problème. Et puis les
et
chiens,
tout essayer.
Et puis les chiens, ça pardonne tout, c'est jamais rancunier, c'est pas le genre à faire la gueule si tu oublies son anniversaire, s'il a une date d'anniversaire d'ailleurs. Moi mon chat, je l'avais adopté en septembre, je l'avais amené chez le véto, il m'a dit a priori il est né mi-juillet, vous voulez choisir quelle date? C'est moi qui ai choisi la date d'anniversaire de mon chat. Ça arrive jamais hein, chez les humains, à part chez les joueurs de foot africains dans les années 2000.
Non,
mais c'est vrai,
pas,
on embrasse à Poula Edel. Bref, on a encore, pour ceux qui aiment le foot évidemment, bref, on a encore la preuve.
C'est des vannes pointues.
On a encore la preuve dans Le Collier Rouge que le chien est vraiment le meilleur ami de l'homme. Tu vois, Nagui, quand tu me dis que je suis qu'un chien dans les couloirs, finalement.
C'est un compliment.
Ouais, c'est un compliment. Merci beaucoup.
Merci, Tom Villa.
France Inter, la bande originale, le best-of, avec Nagui.
Le nouveau film de Jean Becker avec aux côtés de Nicolas Duvauchel, François Cluzet, Sophie Verbeek, Jean-Quentin Chatelain, Patrick Deschamps, Morane aussi, ça me fait plaisir de revoir Claude Morane en tenancière de bar, de resto. Je sais pas si elle chantait pour les au catering en fin de tournage.
Non, mais j'étais surpris par cet accent belge, je savais pas qu'elle était belge en fait.
Si,
ouais. Puis pas vraiment comme ça, quoi.
Non,
c'est
pas vraiment. Voilà. Fais gaffe aussi,
je n'ai rien, quand j'étais belge.
Donc voilà, ça vous avez perdu la promo aussi par Jupiter. Alors...
Non, elle a surtout un timbre de voix tellement reconnaissable, tellement doux. C'est vrai que tout d'un coup, elle surgit dans le film. On se dit, tiens, mais je la reconnais.
Voilà. Est-ce que ce film, vous l'avez préparé en vous replongeant dans des faits historiques ou en lisant déjà le roman de Jean-Christophe Ruffin pour avoir le point de départ et pas uniquement l'adaptation? Comment on travaille un rôle comme ça?
Non, moi je m'en suis tenu au scénario, quoi. Vraiment. Je m'en suis tenu au scénario.
Non,
pour moi,
j'ai.
Non, non, c'est pas une histoire de temps, non, mais parfois c'est assez différent, donc même la fin.
Ça peut être troublant peut-être aussi d'avoir d'autres versions.
Ouais. Voilà, la fin est différente dans le livre, mais non, je voulais pas être trop parasité, on va dire, mais surtout, ouais, on a fait un peu de recherche avec François, et puis surtout, on a fait quelques lectures avec Jean, avec Louis aussi, le fils de Jean qui est le producteur, et avec François Cluzet et Sophie, quoi. Mais bon, le thème est tellement moderne aussi sur même le personnage que fait Sophie, quoi. C'est un personnage de femme moderne, donc c'est un film assez moderne, quoi.
Est-ce que le fait d'avoir vécu par l'histoire de vos grands-parents, comme vous le disiez tout à l'heure, la Première Guerre mondiale, ou d'avoir la Première Guerre mondiale, est-ce que c'est, pour vous, c'était aussi une enquête, une reconstitution pour essayer de comprendre ce que vos arrière-grands-parents avaient vécu?
Ouais, enfin, version light quand même.
Bien sûr.
Nous, on n'était pas dans les tranchées à 24, mais ouais, le fait
d'en mettre... Non, mais comprendre psychologiquement peut-être aussi,
C'est compliqué, hein, même quand on était avec tous les figurants, là. C'est vrai qu'on s'y croyait assez quand on sortait des tranchées, qu'on disait chargé, il y avait un truc, voilà, on disait comment ils faisaient pour y aller, quoi. Mais ils n'avaient pas trop le choix, parce qu'il y avait aussi quelques mutineries, il y avait des déserteurs qui se faisaient fusiller, donc... Voilà, c'était un peu, c'était dur d'imaginer ce que ça pouvait être vraiment.
Et puis il y a la parole qui se libère après la guerre aussi. C'est-à-dire qu'on a envie de dire des choses. Ouais.
Moi, je trouve que voilà, justement, de dire que voilà, c'est vraiment être un film antimilitariste quand même. Et je pense qu'il n'y a pas eu beaucoup de, voilà, on montrait beaucoup les héros, des choses comme ça, mais des gens qu'on refusait des honneurs, des choses comme ça, on n'en parle pas beaucoup. Donc ils en parlent dans ce film-là. Et je pense qu'il a fallu, voilà, il fallait un peu de temps après la guerre, donc voilà, maintenant il n'y a plus de poilus, on peut en parler un petit peu plus, je pense.
Leïla, vos oreilles ont sifflé quand on vous annonçait le retour de Nicolas dans notre émission.
Oui, Nicolas, et quand je pense à vous, je vois pas mal de films, mais je vous revois particulièrement dans un qui, me semble-t-il, a marqué un tournant dans votre filmographie.
Charlie, vous les connaissez depuis longtemps?
Ah ouais, quand même, ouais.
Pratiquement depuis que je suis né, en fait.
Ça fait pas longtemps, alors.
Magique.
C'est marrant, toi.
Mais toi, on joue pas pour gagner, mec, ça.
Mais pourquoi tu crois qu'on compte les points, alors?
Sympa ton costume. Tu veux un mariage après?
Non. Je suis un adulte.
J'avais jamais pensé, mais vous entendriez vachement bien tous les trois.
Allez, hop, une photo. 1, 2, 3.
On est en 2012, c'est comme des frères. Diego Gélin, ouais, ça fait un bien fou.
Ouais.
Et c'est votre première comédie, en réalité?
Oui. C'est ça.
Ouais.
C'est ça. Non. Et puis ça fait du bien d'entendre tout ça, quoi. Ça rappelle de très bons souvenirs, quoi, avec Mélanie Thierry, François-Xavier de Maison, qui est un très bon ami, Pierre aussi.
Et Hugo Génin, bien sûr,
qui est en train de tourner en ce moment même, d'ailleurs.
Voilà. Bon, enfin, cette phrase-là, voilà, on peut la dire tous les jours, hein.
Ouais, c'est vrai.
Sans savoir ce que fait Hugo Génin, on peut dire, il est en train
de tourner.
C'est dingue. Ouais.
Pourquoi je vous parle de ce film? Parce qu'en effet, c'était la première fois qu'on vous proposait une comédie jusqu'à présent, avant la sortie de Comme des Frères. On vous voyait plutôt dans des films d'auteur, des films un peu plus sombre, où on ne pouvait pas percevoir, si on ne vous connaît pas, ce qui est notre cas, une dimension un peu plus comique.
Oui. Enfin, c'est un gros déconneur, Nicolas.
Ouais,
mais davantage, j'imagine, dans la vie, que les rôles que
vous
allez
avoir. Heureusement. Une nouvelle blague de Nicolas Duchesne.
Une blague.
Allez, celle des deux poneys.
Mais quand une proposition comme celle-ci arrive, on se dit quoi? Enfin? Ou au secours, c'est sans doute pas mon répertoire et peut-être que je suis pas. Si on ne m'a jamais proposé ça jusqu'à présent, c'est peut-être que c'est pas pour moi.
Il y a un risque, ouais, c'est ça. Ouais.
Ah non, mais on m'en a déjà proposé, mais voilà, ça me plaisait pas, donc c'est sur tout ça, quoi. Mais là, oui, c'était très très marrant la lecture et puis la rencontre avec François-Xavier, voilà, qui est resté un très très bon ami, voilà, ça m'a vraiment mis à l'aise et puis on a fait des essais avec Hugo, avec Pierre, avec FX et puis ça s'est vraiment super bien passé. Je me suis senti très à l'aise, donc.
Il faut rappeler pour ceux qui l'ont pas vu, c'est que c'est une comédie, mais avec un vrai fond.
Ouais,
c'est ça. Il y a quand même une part humaine très très importante.
Non, puis c'est très bien écrit.
Plein de choses à jouer.
C'est pas que de la blague, voilà.
Voilà, c'est ça que je voulais pas trop faire. Et puis bon, c'est pas vraiment mon répertoire, donc commencer par Comme des Frères, c'était très bien pour une comédie.
Ouais. Et vous avez poursuivi. On vous a vu notamment dans le film de Rim Kharissi.
Dans Jour J.
Donc là, on est plus dans une comédie où les blagues s'enchaînent davantage que dans Comme des Frères.
C'est vrai.
Ça veut dire que quoi, les gens du métier ont changé leur regard sur vous, ça y est, vous pouvez vous balader autant dans le film d'auteur, je pense à des films de Thierry Cliffat où on est vraiment dans une autre atmosphère mais qui vous vont très bien et maintenant...
Soit Nicolas comprend enfin les vannes qui sont écrites dans les scénars et dit ok, je vais les faire.
Un peu les deux, ouais, il y aura ça aussi.
Et une bascule.
Et est-ce que...
Il y a un déclic à un moment.
Et est-ce que vous avez douté d'être drôle?
Non, c'est pas ça, mais c'est vrai que oui, c'est pas ce à quoi j'ai pensé. Moi, comme vous dites, je viens du film d'auteur, donc c'est un peu dur après. Et puis en France, on est vachement cloisonné, donc c'est vrai que. Mais j'avais envie un peu d'élargir mon panel, comme on dit. Donc voilà, c'était des. Mais je cherchais des comédies, on va dire de qualité qui me correspondaient. Après, il y a des choses de qualité, mais qui me correspondaient pas, je trouve. Donc
est-ce qu'on dit qu'il y a un risque de ne plus être appelé justement pour le cinéma d'auteur quand on est passé du côté de la comédie, comme certains. Comédiens se disent.
Ah bah non, bah je serais bien emmerdé, moi, parce que je serais au chômage sinon.
Ouais, non, mais est-ce que la question vous l'êtes posée avant? Il y a des comédiens qui refusent des téléfilms en disant non, si je fais un téléfilm, je serai plus crédible pour le cinéma.
Non, je me suis plus dit, je vais pas être drôle, quoi. C'était plus ça l'angoisse de pas être drôle, mais en fait, voilà, faut pas chercher à être drôle en fait dans un film comique. C'est juste sur le rythme, des choses comme ça, mais chercher la vanne, ça marche pas.
Non, mais si on reste bon acteur, si c'est bien écrit, bien réalisé, que ce soit un drame,
pas de raison.
Voilà, il faut juste être bon, quoi.
Voilà, c'est ça. Je me suis dit.
Bon, c'est votre cas, de ce côté-là, il n'y a pas de débat.
La bande originale, les meilleurs moments sur France Inter.
La bande originale avec Different Blue, le single de l'album Carry No Ghost.
I'm just a drop, sucked up by the heat. Heat of the sun, generated by you. And I'm tinted with your blue, tinted with this blue, different blue. There's a connection, deep and true. The air vibrated and rocked to surround you. And when you left the room, we cried like we knew you. Forever tinted with your blue, tinted with this blue, different blue.
There's an ocean wide.
Qu'est-ce que ça fait du bien, et tout l'album fait du bien. Merci mille fois, General Electric.
France Inter, la bande originale, le best-of, avec Nagui.
Delphine de Vigancine, Les Loyautés, c'est excellent. C'est excellent, il faut que vous l'ayez lu et ça vous fera du bien, c'est chez Jean-Claude Lattès. Vos oreilles ont sifflé, il est là quand on vous a dit que Delphine venait pour cette première fois.
Et oui Delphine, quand je pense à vous, je pense forcément à la grande romancière que vous êtes, que nous recevons ce matin, mais je pense aussi à la réalisatrice.
T'es mariée.
À coup sûr.
T'as peur de t'engager?
Non, c'est pas ça.
On peut très bien se voir comme ça, de temps en temps, tu vois, pour le plaisir.
Le plaisir de qui? En fait, j'aurais baisé une limace sous anesthésie générale, c'était un peu pareil. Le prends pas pour toi, hein.
Comment? Bref, je suis nulle. Je vais devenir le meilleur coup de Paris, Ben.
Intramuros ou...
Île de France, même.
Laurent Sarné, Éric Almosnino...
J'avais oublié la réplique de « j'aurais baisé une limace sous... » Je sais plus, sous
anesthésie générale. Donc c'est « À coup sûr », c'est le film que vous avez réalisé en 2014. Vous avez co-écrit avec un ami de la maison, c'est Chris Esquer.
Oui, bien sûr, ouais.
Voilà. Un film sur la performance au boulot, comme au lit, et un ton qu'on vous connaît pas, en fait. En tout cas, pas forcément, un ton de la comédie, un ton de l'absurde aussi. Comment vous en êtes arrivé au cinéma?
Oui, on pourrait croire à un total dédoublement de personnalité, mais non, en fait, ça fait tout à fait partie de moi-même, ce ton, cet humour absurde que j'adore chez Chris Esquer, d'ailleurs. J'en suis arrivée là, en fait, des producteurs avaient lu un de mes livres qui s'appelle Les Jolis Garçons, qui est mon seul texte humoristique, on va dire, dans lequel on ne peut pas... parce que parfois, je mets de l'humour dans certains de mes romans, et d'ailleurs, c'est le cas dans Les Loyautés, mais souvent, les gens ne le perçoivent pas, ce qui est un petit peu inquiétant. Peut-être parce que c'est un petit peu enfoui sous une couche un peu plus grave. Bref, donc ces producteurs avaient lu ce texte et m'ont contacté un jour en me disant on aimerait en fait on aimerait produire une comédie sur le sexe très contemporaine, etc. Et on pense que ça pourrait que vous sauriez faire ça. Mm-hmm. Et au début, j'étais en train d'écrire Rien ne s'oppose à la nuit, donc je suis un peu tombée de ma chaise.
C'est intelligent de demander à une femme en tout cas de porter le sujet.
Oui, probablement. Donc bref, j'ai fini par écrire ce scénario. Effectivement, en faisant appel à Chris Esquer pour à la fin de l'écriture. Comme souvent en France, on n'a trouvé personne pour le réaliser. C'est-à-dire que c'est assez rare, au fond. Les réalisateurs français sont des gens qui écrivent eux-mêmes. Mmh. Quand je me suis embarquée là-dedans, je ne mesurais pas à quel point ça allait être difficile d'une part d'écrire une comédie, il n'y a rien de plus difficile, et d'autre part de la réaliser. Bref, donc de fil en aiguille, je me suis trouvée... à la réaliser. Je regrette pas du tout, c'était une expérience fantastique. J'ai adoré d'ailleurs la rencontre avec les comédiens, etc. Pour autant, c'est pas un chef-d'œuvre du cinéma, ça marquera pas l'histoire du cinéma français, mais je me suis bien amusée, et au fond l'idée aussi d'aller tellement à l'encontre de son image, c'est là qu'on se rend compte qu'en France, on est vraiment
très addicté.
Mais c'est incroyable. Et du coup, être romancier, avoir écrit des romans comme ça, un peu graves, etc., et tout d'un coup se retrouver dans une comédie qui parle de sexe, qui, et en même temps, de mon point de vue, raconte quand même quelque chose sous cette légèreté. Encore une fois, je dis pas que le film est un chef-d'œuvre, hein, loin s'en faut, mais disons que ça n'était pas dénué de fond.
En tout cas, c'est pas du tout une honte, le film. Je suis autant déçu que vous du résultat, en tout cas, sincèrement. Sincèrement, parce qu'on a vu...
Le film n'a pas rencontré son public.
On a vu des films bien pires avoir plus de monde.
Et on en a parlé ici, même, des fois.
On les a reçus.
On leur a dit que c'était bien. Non.
La bande originale, le best-of, sur France Inter.
On parlera tout à l'heure de musique avec Delphine de Vigan et de la grande Sophie. Mais d'abord, voici l'humeur, espèce de salaud, l'humeur de Marina Rollman. Oh.
Bonjour les amis.
Salut.
Alors hier soir, alors qu'on était avec mon amie Rebecca, comme tous les jeudis, occupée à se faire des tresses en parlant de chevaux, Rebecca m'apprend qu'une des catégories de pornographie ayant le plus de succès à l'heure actuelle, c'est les scènes se déroulant dans des fitness. Voilà, le sexe à la gym. Et alors moi, je dois vous dire que ça m'étonne à moitié, parce que depuis 6 mois, je suis moi-même abonnée à une salle de sport, et c'est vrai qu'il y a une tension sexuelle dans ces endroits, mais c'est un truc de dingue. Mais c'est dû aux tenues notamment. Mais oui, parce que alors la semaine dernière, j'ai essayé d'acheter une brassière de sport et j'en ai pas trouvé une seule qui soit pas rembourrée. C'est-à-dire que tu mets un décolleté de push-up, de galbe infini pour aller faire du sport. Et toutes les fringues de sport actuellement, c'est comme ça. C'est fini les shorts informes et les couleurs moches. Tout le monde est harnaché dans une espèce de truc ultra moulant, entre peau de poisson moirée, tenue de soirée SM, tout en noir, mi-cuir, mi-gore-tex, luisant. Bref, en plus, les meufs, elles y vont maquiller, les types, ils sont coiffés. Il y a une espèce de vieille musique de club qui passe comme ça. Les types, ils boivent des trucs bleus mystérieux pour tenir plus longtemps. En vrai, on dirait déjà un set de porno. Tout est là. Et donc, je suis allée faire une petite recherche sur ces histoires de porno. Et il se trouve que les gros sites de streaming de pornographie publient chaque année des statistiques. Et dans le bilan d'un de ces sites, j'ai appris plein de trucs intéressants. Notamment que, en 2017, 3732 pétabits de données ont été transférées via le site. Ce qui, en bit normal, fait vraiment pas mal, quoi. Ça fait beaucoup.
On parle informatique, absolument.
Pétabits. On apprend que les visiteurs qui restent le plus longtemps par visite au monde sont les Philippins. Voilà, avec 13 minutes 28 en moyenne par visite. Bien. Tu sens le masturbateur attentionné. Hein, tu sens, il s'invite à dîner d'abord, il se replace une mèche derrière l'oreille en souriant, il se parle de voyage, de projets, de ses rêves, il se propose de finir la soirée chez lui. Et puis bon, une fois que c'est terminé, il évoque l'idée de se présenter à ses parents. Enfin voilà, ils font ça bien, les Philippins. Et alors, mon information préférée du site, ils ont fait un classement des termes de recherche qui étaient les plus à la mode en 2017. Alors en vrac, on y trouve ghetto booty, hein, qu'on pourrait traduire par fessier de banlieue. Voilà. Sinon, on trouve aussi le terme sexo en espagnol, qu'on pourrait traduire par sexe dans Gérard Piqué. Et enfin, mon terme de recherche à succès préféré cette année,
mon Dieu.
Surprise anal, ou sodomie-surprise. Alors c'est vrai que moi, comme
ça,
Leïla.
Ça va, Marina?
Oui, ça va bien. Okay, oui, bah oui, moi, c'est vraiment des recherches, c'est très académique comme démarche.
Je vois, c'est scientifique,
même. Et alors, c'est vrai que moi, comme Leïla, quand je pense surprise, je pense à Kinder surprise, à anniversaire surprise, à surprise du chef, à la limite. Mais là, c'est quand même, j'allais dire, plus frontal, mais pas vraiment.
Non,
c'est vrai
non,
que
pas vraiment.
Les surprises, mais alors, c'est vrai que les surprises, ça fait toujours plaisir. Mais celle-là, avant de pratiquer dans la vie, demandez-vous, et finalement, des fleurs. Parce que tu vexes rarement avec des fleurs, tu vois, des billets de concert, une chaussure orthopédique, n'importe quoi, c'est moins original. Et c'est sûrement moi qui suis vieux jeu. Mais c'est vrai que le sexe anal, ça fait partie de ses activités. Je préfère que tout le monde soit au courant. Voilà. C'est un petit peu comme une plongée en apnée ou une conversion religieuse. J'ai l'impression que ça se passe mieux quand tous les participants savent où ça va. Hein, t'as pas du tout envie de rentrer chez toi un soir, il y a tout ton entourage en blanc, on te jette un verre d'eau dessus, on te fout une gaufrette dans la bouche. Surprise, t'es catholique. Bon, bah voilà. La sodomie-surprise, c'est pareil. Tout un programme quand même. Parce que je trouve qu'en plus déjà quand tout le monde est d'accord, parfois ça patine. Alors tu t'es dit bon. Bref, mon anniversaire, tout ça pour vous dire les amis, c'est le 9 août et j'ai l'air horreur des surprises.
Bravo. France Inter, le meilleur moment de la bande originale. Avec Nagui.
Ton historique.
Tom, tu veux pas rappeler le CSA, s'il te plaît.
On a dérapé.
Le 9 août.
Delphine de Vigan. Oui, c'est ça. Et elle n'aime pas les surprises.
Non.
Mais Kinder.
Delphine de Vigan est notre invitée. Nous allons parler avec Patrick Amar, qui est psychologue et psychothérapeute, de la manière, la part d'ombre, notre côté obscur que nous avons tous et la manière dont on peut la respecter ou la trahir. On en parlera dans quelques instants. Mais d'abord, en musique. Que
bonjour
Delphine
Patrick.
De Vigan a entendu dans son enfance, par exemple, fin des années 70, vous écoutiez.
Ce soir, au bar de la gare, Igor Agar est noir, il n'arrête guère de boire. Car sa Katia, sa jolie Katia, vient de le quitter. Sa Katia l'a quitté.
Bobby Lapointe, ta Katia t'a quitté. C'est une musique qui vous renvoie dans l'appartement familial, qui sont vos parents, ou vous qui écoutiez?
Non, alors c'est marrant parce que c'est une musique qui me renvoie plutôt dans l'appartement d'une de mes meilleures amies, voilà, par laquelle j'avais découvert Bobby Lapointe. Et c'était à cet âge-là, j'étais assez souvent fourrée chez elle, comme on disait à l'époque. Ma mère me disait, t'es toujours fourrée chez elle. Et effectivement, je passais pas mal de temps chez elle et ses parents écoutaient Bobby Lapointe. Et c'est comme ça qu'on a découvert toutes les deux Bobby Lapointe. On connaissait cet album par cœur, je connais encore les paroles par cœur. Et voilà, c'était vraiment une découverte aussi, tous ces jeux de mots, en fait, la manière dont ils jouent.
La musique des mots,
oui,
aussi,
sur les assonances, sur la répétition, j'adore, et j'adore toujours Bobby Lapointe.
Alors, en 78, Delphine, vous avez 12 ans et vous commencez finalement votre carrière d'auteur en tenant votre journal intime que vous tiendrez, je crois, jusqu'à la naissance de votre premier enfant.
Oui, c'est vrai, oui. Alors, je ne sais pas si c'est ma carrière d'auteur qui commence comme ça, en tout cas, la rencontre de l'écriture, oui.
Pourquoi ?
À cet âge-là.
Ce besoin.
Comme beaucoup d'adolescents, je pense, hein, de préadolescents. À un moment donné, je me souviens que j'écrivais elle s'appelait Julia, une amie imaginaire, donc à qui je racontais mes chagrins, mes peines, mes petites histoires, toutes sortes d'anecdotes du collège. Voilà, je pense
vous
que c'est un âge
que ça vous a sauvé.
Oui, sauver, c'est peut-être le mot est tout de suite un peu grandiloquent, mais en tout cas l'écriture, cette écriture-là, l'écriture du journal intime que j'ai continué effectivement jusqu'à l'âge de 29 ans, elle a été pour moi vraiment un outil de connaissance, de construction personnelle, et ça m'a aidé à tenir debout dans des moments plus difficiles. Je pense à l'anorexie quand je suis entrée dans l'âge adulte ou des moments comme ça.
Dans votre roman, comment on peut décider de s'arrêter ? C'est-à-dire, si justement ça vous aide, c'était une forme de tuteur dans la vie comme ça, sur lequel vous pouviez vous poser, vous tenir, à quel moment on peut dire, maintenant je le lâche, tuteur, et je vais tenir seul ?
Comme la fin d'une thérapie. Ouais. Tuteur, le mot est joli, parce que c'est à un moment donné où peut-être vous vous dites, mais en fait je tiens debout toute seule, donc voilà, je crois qu'à un moment donné je me suis dit, j'ai plus besoin de ça, en fait. Une écriture qui aidait à tenir debout. Et à un moment donné, je me suis rendu compte que oui, même sans les mains, ça j'y arrivais. Et c'est à ce moment-là, d'ailleurs, que l'écriture romanesque a pu entrer dans ma vie, en fait.
Et votre rapport à la littérature toute jeune, quel était-il ?
J'étais. Je dis souvent que je suis passée de Lucky Luke et Rantanplan à Madame Bovary. C'est vrai, j'ai d'abord été.
Et Dostoïevski, il est
aussi. Et Dostoïevski, tout à fait. J'ai été d'abord une lectrice de BD. En fait, j'avais hérité à peu près à cet âge-là, à l'âge de Bobby Lapointe, donc vers 11-12 ans, d'une collection de BD assez importante qui me venait d'un cousin de ma mère. Et donc, j'ai lu et relu des Astérix, des Lucky Luke, des Philémon, la BD de Fred, que j'adore toujours, qui en même temps a une dimension poétique extra. Avec ce plaisir de relire des choses qu'on a déjà lues, de remarquer un petit détail, etc. Et puis, en classe de 3e, j'ai étudié Une vie de Maupassant, et ça a été vraiment une révélation, un choc porté par un professeur, voilà, qui c'est souvent le cas, c'est souvent cette rencontre aussi qui fait qu'à un moment donné
qui a su transmettre.
Et ensuite voilà, il y a eu Madame Bovary, que j'ai relue depuis d'ailleurs de manière très différente, parce que ce qu'on lit à 13 ou 14 ans n'a rien à voir avec ce qu'on lit à 25 quand on relit le même livre. Dostoïevski, voilà, j'ai emprunté tout Dostoïevski.
On reste avec Flaubert, l'éducation sentimentale, j'imagine, aussi.
Oui, l'éducation sentimentale, tout à fait, voilà. Et donc ça a été une espèce de comme ça de
c'était compulsif.
À une époque, oui. Ouais. À une époque où j'étais une adolescente, un peu plus tard, vers 15-16 ans, assez solitaire. Je me souviens d'été un peu plus vieux, d'avoir lu un roman par jour. Donc il y avait quelque chose.
Donc on peut être anorexique et dévorer des romans.
Non, mais l'anorexique, c'est venu plus tard.
Mais vous dévorez toujours des romans. Ouais. En 2001, c'est votre premier.
Moi, j'ai trouvé ça drôle.
C'est votre. C'est votre premier. C'est ça. C'est votre premier livre, et vous écoutiez. C'est justement cette période dont je parlais.
Voilà, 2001, c'est la publication de Jour sans fin. Et là, votre journal intime a été précieux, parce que c'était la matière pour nourrir en fait ce récit d'inspiration autobiographique que vous n'avez pas publié sous votre nom.
Oui, oui. Entre autres, c'est vrai que je me suis nourrie de ce journal intime, et en même temps j'avais envie que le roman ait une dimension plus universelle, et d'ailleurs il est écrit à la 3e personne, et même si j'en assume tout à fait la teneur autobiographique, il y a une part de fiction dans ce livre. J'ai oublié votre question, pardon.
Votre pseudo aussi, Lou Delvig.
Avec un L.
Avec un L, oui, c'était mon premier, d'ailleurs, mon premier L. Oui, à ce moment-là, je travaillais en entreprise, c'est depuis déjà assez longtemps.
Vous faisiez quoi?
À l'époque où le livre a paru, je travaillais dans l'observation sociale en entreprise, c'est-à-dire pour un institut de sondage qui faisait des enquêtes auprès du personnel des grandes entreprises pour savoir, en fait, s'ils se trouvaient bien là où ils sont, c'est comment ils perçoivent leur salaire, leur formation.
On aura besoin de vous ici. La chose à redire.
J'ai arrêté, en fait. mais j'ai fait ça longtemps.
Ça fait mal d'analyser la souffrance des autres ?
Bah, c'est passionnant en même temps, parce que l'entreprise est un lieu très révélateur de ce qui se passe dans le reste de la société. Donc, j'ai travaillé dans ce domaine à un moment où les rapports en entreprise se sont beaucoup durcis, au moment où il y a commencé à y avoir des vagues de suicides dans des grandes entreprises, où les rapports à la fois hiérarchiques, les relations managériales, etc., se sont beaucoup, beaucoup tendus. Et je pense qu'il y a une certaine, c'est vrai encore aujourd'hui, que beaucoup de gens travaillent sans tellement savoir pourquoi ils travaillent, pour quel objectif, en fait.
Et pourquoi on abandonne, abandonne un pseudo? Alors, je comprends pourquoi on le prend, parce que voilà, vous l'avez expliqué.
Pour se protéger, oui.
Voilà. Oui, et puis c'était aussi une manière de protéger ma famille, en tout cas mon père. Je me disais, c'est peut-être compliqué pour lui que ce livre paraisse avec mon nom qui est le sien. Et puis un petit peu plus tard, je me suis dit, c'est mon nom. J'ai envie d'assumer ce que j'écris. J'ai envie de continuer à écrire. C'était bizarre qu'on m'appelle Lou. C'était un peu comme un jeu de d'adolescente qui se poursuivait. Et je me suis dit, être adulte, peut-être c'est une forme de loyauté vis-à-vis de soi-même, pour le coup. Être adulte, c'est assumer, au fond, et j'ai eu envie de publier sous mon vrai nom.
C'est toujours votre humour aussi de choisir Lou comme prénom pour vous masquer ?
Masquer avec le loup, c'est...
Merci.
Ah, je pense que c'est gentil de traduire.
Non, c'est parce que c'est le matin. Non, je sais pas si c'est. Ça s'est fait comme ça.
Ouais, ça s'est fait comme ça. En 2011, le triomphe est évidemment Bachung.
La nuit, je mens. Je prends des trains à travers la plaine. La nuit, je m'en lave les mains.
J'ai envie de dire doublement Bachung, parce que vous l'écoutiez réellement, vous êtes même allé à un concert où on devait être ensemble dans la salle, son dernier pour son album Bleu Pétrole.
Oui, j'y suis allée plusieurs fois en concert, effectivement, les derniers concerts à l'Olympia, à l'Élysée Montmartre, magnifique. Ouais. Et ça faisait bien longtemps que j'écoutais Bachung, depuis, parce que j'ai aimé aussi le Bachung de Gabi, de Vertige de l'amour. Et j'ai adoré d'ailleurs cette évolution qui a été la sienne, à la fois d'être capable de mêler des titres aussi populaires, aussi grand public, et des titres très exigeants comme ceux de L'Imprudence, que j'adore, qui est un album que j'adore.
Et l'écriture et la plume, que ce soit celle de Bergman ou de Jean Fauque aussi, vous parle, résonne, et encore plus avec Osez Joséphine.
Osez Joséphine, et rien ne s'oppose à la nuit.
Cette phrase devient le titre d'un roman. Leïla.
Et on est en 2011, vous racontez encore une partie. Non, j'étais en train de penser à Bachung.
Oui, c'est bien, tu as raison.
Tu peux revenir, s'il te plaît ?
Je suis là. C'est pour le coup, voilà, encore un texte autobiographique, puisque vous parlez de votre mère.
Oui, c'était le retour d'ailleurs à un texte autobiographique, puisqu'il y avait eu Jour sans fin, mon premier roman. Ensuite, j'ai écrit de la fiction et avec Rien ne s'oppose à la nuit, j'ai tenté de retracer l'histoire de ma mère, en tout cas, plus exactement, de faire de ma mère un personnage de roman. Elle était, éminemment romanesque. Donc ça a été Rien ne s'oppose à la nuit. Comment m'est venu ce titre, je ne sais pas, mais j'étais probablement parce que j'écoutais Bachung depuis longtemps et je trouvais cette phrase magnifique.
C'était une manière de ne plus en vouloir, entre guillemets, si je peux me permettre l'expression, à votre maman, d'écrire ce roman. La démarche au début, c'était je lui en veux et à la fin, c'était finalement...
Non, je me suis pas dit ça, mais peut-être que c'était une forme de déni d'ailleurs, mais c'est vrai que quand j'ai terminé le roman, ça allait mieux, c'est une façon, je le dirais pas comme ça, mais probablement, en tout cas, le fait de retracer sa vie, de prendre la mesure du courage qui avait été le sien, d'abord pour affronter la maladie mentale qui était la sienne, puis à un moment donné, pour mettre fin à ses jours. Oui, d'une certaine manière, ça m'a aidé à apprivoiser cette idée et peut-être à mieux la comprendre. À travers le roman, à travers une forme de fiction, au fond. Parce que c'est pas d'elle que je me suis approchée, même si j'aurais voulu, à travers ce livre, m'approcher d'elle et pouvoir la prendre dans mes bras et lui dire toutes les choses que je ne lui avais pas dites. Mais, au fond, le seul chemin pour le faire, c'était le roman et c'était une forme de fiction.
Et c'était lui donner l'occasion aussi d'être publié, parce que dans ce livre, il y a des des extraits de textes écrits par votre mère. Donc c'est une façon aussi de
Oui, que j'avais retrouvé dans les cartons, textes que je trouvais vraiment très beaux. Je me suis permis de les intégrer parce qu'elle-même avait cherché à les publier à un moment donné. Donc c'était pas, il y avait des textes qui étaient plus intimes, dont je n'ai pas voulu reproduire le contenu. Mais ces textes-là, c'était des textes qu'elle avait elle-même cherché à publier.
France Inter, la bande originale, le best-of.
Et vous êtes bien dans la bande originale, voici MC Solar avec Super Gainsbourg.
Il était une fois dans l'Ouest encore sauvage, un peintre armé de lettres, un vrai tueur à gages. Avec la jeune Houston, il vanne et se pavane. Il flambait des dollars, 30 ans avant Swagman. Jadis, il mélangeait à l'arrière des saloons des mélodies châtiées au rythme boum, boum, boum. Et dans les plaines immenses de vieux tubes en faïence, la magie de Gainsbourg a peuplé le silence.
Super Gainsbourg.
Chassé de la cité, le jeune scribe chétif a tatoué sur le cœur l'étoile d'un shérif. Il masque ses démons en annonçant des psaumes qu'il note sur sa paume dans une rôle ce fantôme. Flic, flank, spliff, stupé, sing, sing. Bébé et petite pépé, pile-up comme bling bling. On peut frotter des lampes et écumer 15 bars. Ça ne fera pas apparaître le génie d'un 15 bars.
Super Gainsbourg. The man with the cabbage. Super Gainsbourg. He knows the tricks of the trade. Super Gainsbourg.
C'est l'homme à la tête de chou. L'homme à la tête de chou, chou, chou.
Super Gainsbourg.
De chou, chou, badou, balouba, orang-outan, bubblegum, baby boom, les paix des vents des poules, oh didou, didouda, la la l'amour, lolo la la rastaquer, lama la tête de chou, chou, badou, balouba, orang-outan, bubblegum.
C'était Super Gainsbourg d'MC Solar sur Inter.
France Inter, les meilleurs moments de la bande originale avec Nagui.
Nous accueillons Patrick Amar. Bienvenue Patrick à ce micro.
Salut Patrick.
Bonjour Patrick.
Parler.
Bonjour, plaisir que tu viennes.
Revenir sur Les Loyautés, le nouveau roman de Delphine de Vigan chez Jean-Claude Lattès, que nous avons adoré. Je ne sais pas si vous avez eu
absolument
le plaisir de le lire également. Vous signez vous-même un livre qui s'intitule « Aider les personnes en difficulté psychologique » aux éditions Erol. Et comme nous parlions de cette part d'ombre ou de cette loyauté que l'on se doit finalement vis-à-vis de soi-même, comment définir déjà la part d'ombre ? Ça veut dire quoi avoir une part d'ombre ?
J'ai eu peur de voir passer juste après la sodomie surprise de
non.
Ce qui aurait été une façon d'introduire.
Mais
la
on peut y revenir si vous voulez, Patrick. Il y a pas
une façon d'introduire quoi la pardon. Vous avez pas honte de faire ce genre de vanne, mais c'est pas possible. Interdit.
Patrick, vous êtes spécialiste autour de la table. Vous n'êtes pas humoriste. Attention. Non,
c'est vrai. C'est vrai. Je pique
mélange
le travail.
Mélange de gens.
Mélange de
gens. Non, vous piquez rien. Allez-y vraiment.
Long,
connaissez celle de la pute et du chameau ou pas?
Non.
Attendez une minute. Pardon. Je sais pas.
Stop.
L'ombre, c'est littéralement ce qui est opposé à la lumière, au sens dans la terminologie psychanalytique, c'est ce qui est inconscient, ce qui est inconnu, c'est la part de l'identité qui est ignorée, qui est réprimée, qui est refoulée parce qu'elle fait trop peur, elle est trop dangereuse, elle est inavouable.
La manière dont vous en parlez, justement, c'est plutôt négatif. Or, est-ce qu'on en a besoin de cette part d'ombre? Est-ce qu'on a besoin finalement d'avoir un jardin secret et de le cultiver et même de le protéger?
C'est vrai que par extension, la part d'ombre, elle est devenue rapidement quelque chose de négatif. D'ailleurs, dans le langage de la guerre des étoiles, c'est le côté obscur de la force. L'ombre la plus connue, c'est Mr. Hyde, le double de Dr. Jekyll, qui le dépasse, qui est la partie sordide, qui est la partie qui tue, qui est la partie qui piétine. Pour Jung, Carl Jung, le psychanalyste, qui a pas mal parlé donc de cette part d'ombre, qui est un archétype, elle fait partie intégrante de la personnalité. C'est ce qui donne aussi notre richesse. Elle fait partie de nous. Et justement, quand on ne fait que, alors, elle est certes imparfaite, elle est primitive, elle est frustre, mais elle fait partie de ce que nous sommes. Et elle va se révéler parfois de façon plus ou moins explosive, comme dans certains protagonistes du roman de Delphine de Vigan.
Pratiquement tous, ils ont leur part d'ombre, justement, et ils ont à gérer cette part d'ombre. Et on voit dans le roman de Delphine de Vigan, et on se rend compte que cette part d'ombre ne vient pas forcément de l'enfance, pas forcément de l'éducation, mais elle peut être aussi, et je repense encore une fois à William, elle peut être aussi créée de toutes pièces construites par un adulte en décidant de son plein vouloir, oui, de le construire, ce jardin secret. On n'hérite pas de cette part d'ombre.
Alors, on n'hérite pas. Il y a certaines effectivement composantes génétiques, mais alors elle est beaucoup structurée dans l'enfance, parce que l'enfance est une phase dans lequel on reçoit beaucoup de choses qu'on n'est pas encore capable d'élaborer. On ne peut pas mettre de mots, on ne peut pas construire, on ne peut pas travailler la matière, et donc on la reçoit de façon un petit peu brute. Et pour se protéger parfois devant cette incapacité à métaboliser, on enferme ça, on réprime de façon inconsciente parfois, et ça ressort sous forme explosive plus tard. Mais il y a aussi des traumatismes de vie, des grands accidents de vie qui parfois nous dépassent et qui vont constituer une partie de cette zone d'ombre.
J'aime bien l'expression, ça ressort de forme explosive, c'est-à-dire?
Oui, c'est presque un petit peu physique, c'est-à-dire plus on met le couvercle sur quelque chose, plus on s'attache à ce que notre vie soit la plus rangée, la plus ordonnée, la plus prévisible, la moins surprenante, plus on s'attache à ne pas rentrer en collision avec soi, quelque part, et plus le couvercle peut...
Ça pètera toujours.
Ça ne pètera pas toujours, parce que
c'est comme une espèce de... sur un ordinateur, l'historique, à un moment donné, on finit toujours par le retrouver.
Ça ne va pas péter toujours, parce qu'il y a des experts du conformisme, de la... du mensonge, de la dissimulation, du déni aussi. On a aussi des mécanismes de défense qui veillent en permanence, qui sont ces gardiens un petit peu de notre moi conscient, et qui vont empêcher justement que le barrage ne cède et que l'eau se répande partout.
Il n'y a pas d'âge pour avoir une part d'ombre, restons là-dessus, c'est-à-dire que même un enfant, si petit soit-il, peut aussi avoir cette espèce de double personnalité où le naturel, avant même de savoir quels sont les codes de notre société, un enfant jusqu'à, 5-6 ans, n'a pas de filtre et dit tout haut ce qu'il pense sans chercher à masquer quoi que ce soit.
Très tôt, on va apprendre qu'il y a des choses qui sont dangereuses à dire. Très tôt, on va quêter, par exemple, l'amour des parents. Et cet amour pourra avoir un prix. Il y a des choses où, sans même le savoir, on sait que c'est pas entendable, que c'est pas bien. Que à l'un, il ne faudra pas faire le malin à côté de son pauvre frère handicapé. Donc, il sera comme ça entendu que se mettre en avant est forcément mauvais, par exemple. Il sera aussi dit que pour avoir l'amour de ce parent, il vaut mieux avoir tel comportement. Donc, très très tôt, chez l'enfant, on va comme ça ingurgiter, intégrer cette part-là.
Alors, tu vois le regard du papa qui se dit...
Ce qui est intéressant... On est tous des mauvais parents, sinon ça c'est pas drôle.
Maintenant, tant qu'on l'est pas, on est tranquille. Hein, pas...
Regardez François Zolto.
Il y a évidemment la part d'ombre, la manière, et là aussi c'est l'une des forces de votre roman, Delphine de Vigan, c'est qu'il y a à la fois la manière dont on doit gérer sa propre part d'ombre et la manière dont on doit gérer la part d'ombre de l'autre, quand on l'apprend, quand on la découvre ou quand on se pose des questions. Là aussi, est-ce que toute vérité est bonne à dire et comment se comporter quand on voit une part d'ombre ou on entreaperçoit une part d'ombre chez quelqu'un?
Alors, toute vérité n'est pas bonne à dire, notamment dans le couple, à mon sens. Maintenant, le plus souvent, je est un autre, je est d'ailleurs plusieurs. On ne se connaît jamais d'ailleurs soi-même, donc étant en partie un étranger à soi-même, l'autre apparaît encore plus comme une altérité totale. On a beau... Et d'ailleurs, est-ce que c'est souhaitable de connaître l'autre? Je crois qu'il doit rester aussi une partie de mystère. Qu'est-ce qu'il y a de plus ennuyeux que quelqu'un...
Femme, Patrick. Il faut garder une partie de mystère, vraiment.
Non, moi, je n'ai pas de part. Donc j'ai dépassé tout ça. Mais pensez à ces gens dont on dit simplement « il est parfait, il est d'une transparence absolue ». Il va faire 15 secondes dans une soirée. Non, ce qui nous intéresse aussi, c'est ce qu'il y a d'imparfait. Jung le disait d'ailleurs, cette partie d'ombre, elle n'est pas nécessairement mauvaise. Elle est consubstantielle à ce qu'on est. Pas d'ascension possible sans imperfection, pas de lumière sans obscurité. Elle est importante, cette
part
d'ombre.
Donc il faut la part d'ombre pour justement avoir l'explosion et la lumière.
Alors, on l'a nécessairement, mais en tout cas, elle n'est pas... la part d'ombre a une très mauvaise presse, et elle est assimilée effectivement à ce démon intérieur, ce sorcier moyenâgeux d'ailleurs qui a été intégré dans la personne avec la psychanalyse, hein, ce jeu est un autre. Elle peut être malfaisante, on a vu certains comportements dans le roman de Delphine de Vigan, mais c'est aussi par exemple ce qui permet à Hélène, la part d'ombre d'Hélène, qui permet de communiquer avec la part d'ombre de Théo. Ça nous permet aussi d'aller une sorte de discussion d'inconscient à inconscient.
Et de tendre une main.
De tendre une
main. Le meilleur de la bande originale continue jusqu'à midi et demi avec Arnaud Desplechin et en live General Electric. On se retrouve juste après l'info. Le meilleur de la bande originale continue avec Leila Kadoboudedi, Daniel Morin, Tom Villa, Marina Rollman, Tanguy Pastureau et notre invité Arnaud Desplechin et en live General Electric. C'est le meilleur de la bande originale, la suite c'est parti. Arnaud qui signe Les Fantômes d'Ismaël, ce film sort en DVD, c'est la version choisie par le réalisateur, c'est-à-dire la version avec toutes les aspérités, tous les moments de folie, et puis plus de présence, plus de fantômes, vous l'avez dit tout à l'heure, en tout cas plus d'explications sur la folie que l'on a tous un tout petit peu en nous, c'est-à-dire, oui, votre réalisateur joué par Mathieu Amalric est totalement fou. On peut aussi se poser des questions sur les esprits saints de Marion Cotillard ou de Charlotte Gainsbourg aussi. On a tous un grain comme ça, plus ou moins important, de décalage, de folie par rapport à la société, par rapport à ceux qui nous entourent.
Oui, tous, mais ce personnage d'Ismaël un peu plus quand même. Lui, il est au taquet. Il est pareil que nous, mais juste il est au taquet. Oui. C'est la définition du personnage.
Quel est le personnage le plus normal pour vous dans ce film? Parce que
le plus normal,
tous, même Yvan, son frère.
Il est un peu décalman.
C'est Hippolyte.
Hippolyte Girardot.
Hippolyte, le producteur.
Oh non.
Le producteur,
il est hystérique.
Mais non, tu présentes face à Ismaël, comment tu veux être? La veille du tournage, il te plante.
Il met un réalisateur dans le coffre de sa voiture pour l'emmener sur le tournage pour travailler. J'appelle pas ça un mec normal.
Tu l'as jamais fait, toi?
Non.
C'est Ismaël qui conduit à de telles extrémités, nécessairement. Il veut que son film se fasse, il perd de l'argent, lui, il est pragmatique.
Il incarne une raison malicieuse, comme ça, Hippolyte, je trouve, vous voyez, Hippolyte, ça marche bien. Charlotte Gainsbourg, elle pose à la raisonnable, mais j'aime bien penser qu'elle n'est pas raisonnable. Oui. Elle pose à la raisonnable.
Elle a la tête dans les étoiles. Elle est totalement ailleurs. Marion Cotillard revient après 21 ans d'absence, de disparition totale. Il y a une scène qui est bouleversante, où on a toujours le sentiment, nous, quand on n'est pas du métier, de se dire, oh, les comédiennes, de toute façon, elles pleurent sur commande, ou on leur met, je sais pas, des gouttes de menthe.
Des doigts dans les yeux.
Dans les yeux. Les doigts dans les yeux pour qu'elles se mettent à pleurer. Et puis, voilà, on fait 2-3 prises. Et puis ça coule tout seul. Là, c'est vraiment une scène où elle est souriante, sans aucune larme dans les yeux. Et c'est un plan séquence, il n'y a aucun plan de coupe.
Non.
Et d'un coup, ça coule à torrent.
C'était sidérant. C'était sidérant. Je savais pas. Et c'était dans les premiers jours de tournage.
Mais elle avait une petite conjonctivite aussi.
Non. C'est arrivé comme ça. L'émotion est montée et c'est tombé à la réplique. Vous voyez où il y a une didascalie. La didascalie, c'est les indications qu'on note à côté du dialogue, en disant elle pleure. Et à la didascalie près, une larme arrive et les larmes commencent à couler et le sourire ne s'efface pas. Elle continue à sourire, elle continue à essayer d'apaiser son père, etc. Et l'acteur en revenait pas, moi j'en revenais pas, il y avait toute l'équipe qui pleurait à côté au combo, c'était sidérant, c'était absolument sidérant.
Dans ces cas-là, mauvaise ambiance, quoi.
Dans ces cas-là, parce qu'il y a ce sourire qui est là, il y a cette bienveillance qu'elle a pour son père.
Dans ces cas-là, on dit deuxième prise ou on garde l'unique prise qui a été faite?
Non,
on dit cette fois on tourne.
C'est bon.
On garde ce moment de magie.
On garde ce moment de magie.
Et comment vous qualifieriez votre manière de réaliser, qui s'appuie beaucoup sur la lumière, évidemment, parce qu'il y a des tableaux, chaque cadrage, chaque séquence, et j'ai le sentiment que vous n'aimez pas trop la caméra fixe, que vous aimez beaucoup que la caméra soit en mouvement, au rythme presque du dialogue, pour appuyer le jeu des acteurs.
Ouais, j'aime bien souligner le jeu des acteurs, j'aime bien que les techniciens jouent la comédie, j'aime bien qu'ils fassent un petit effort quand même, qu'il n'y ait pas que les acteurs qui fassent un effort. J'aime bien quand ça bouge un peu, j'aime bien quand ça... Et alors là, ce qui était rigolo dans le film, c'était qu'on sautait d'un genre à l'autre. C'est qu'il y a le mélodrame, la comédie à la Woody Allen, le film d'espionnage, le truc, et que du coup, à chaque fois, on trouve un genre, un style de façon de filmer un petit peu différente pour chaque bribe d'intrigue qui viennent se frotter les unes contre les autres.
La bande originale, les meilleurs moments sur France Inter.
Arnaud Desplechin, notre invité jusqu'à midi et demi avec les fantômes d'Ismaël, place à Tanguy Pastureau sur France Inter. Tanguy, donc, le média traverse des jours difficiles.
Oui, le média, c'est cette web télé qu'ont lancé des potes de Mélenchon en faisant croire qu'ils n'étaient pas des potes de Mélenchon. Ce qui est difficile parce qu'à l'antenne, ils doivent dire du bien de lui sans trop en faire. Donc, ils disent Mélenchon a raison sur tout, il est grand, il est beau, il a un super look, il fait bien l'amour, c'est Dieu. Mais il paraît qu'il sent des pieds et qu'un jour, il s'est trompé dans son analyse politique en 78, bien que ce soit pas sûr. Le 24 février, Aude Rossigneux, présentatrice du 20h du truc, est virée. Donc là, les sociaux, les internautes qui financent le site se disent quoi ? Impossible, le média est de gauche. Et à gauche, les gens sont gentils. Pas comme ces tarés de droite qui mangent du steak d'enfants pauvres, sauce cheminot menacé par Macron. Ils n'y claquent pas 10 boules par mois pour qu'on applique le même management que dans les entreprises libéraux capitalistos satano Jean-Pierre Gaillardienne. Sophia Chikirou, boss du média, explique que Rossigneux, hein, qui était en période d'essai, n'a pas réussi à s'intégrer. Hein, on l'a surprise en train de rêvasser devant une photo de Benoît Hamon, en même temps qu'elle réservait pour l'été à Miami au lieu de Caracas, donc dehors. Bref, tout se passait de nouveau bien. La rédac continuait de vanter les mérites de Mélenchon tout en faisant entendre qu'il serait éventuellement possible qu'il ne soit pas une entité cosmique supérieure offerte à la Terre par les aliens parce que chez eux, ils n'ont pas de smartbox. Quand, le 26 février, Noël Mamère, l'un des deux mecs dans le monde à porter la moustache en 2018, révèle qu'il quitte le média. Alors il le fait sur France Culture, un procédé le moins modeste au monde. D'habitude dans le métier, c'est TéléZ qui annonce les départs. Mais lui s'est dit, j'ai bossé 15 jours en étant rémunéré en pins parlant de Mélenchon. Hein, c'est un pins, vous appuyez dessus, ça fait « Ah !» Je me fais un kiff papier glacé. Soit la une de gala dans un lit avec Laetitia Milo, 4 bébés et un chien, soit France Q. Or, il avait trop de poils pour faire la une de gala. Hein, même Laetitia Milo, il a fallu lui faire les sourcils. Donc, il a pris culture. Et là, il dit avoir été berné. Hein, il ne pensait pas que le média était lié à ce point-là à la France insoumise. Genre. Mais il est aussi naïf que Candy, quand elle caresse 4 heures Capucin, et qu'elle se demande pourquoi le sexe du raton laveur change de forme.
Oh,
Sophia Chikirou, la patronne, c'est l'ex-dircom de Mélenchon. Elle est plus proche de lui que Charles Aznavour de l'âge de la retraite.
Mais que reproche exactement Noël Mamère aux gens de média?
Eh bien, leur point de vue sur la Syrie, hein, parce qu'ils refusent de passer des images de la Ruta orientale, hein, bombardée par Bachar et Poutine, les deux sociopathes à tête de rongeur endormis, disant que face à El-Assad, il y a des gens pas clairs non plus. Or, les ONG sur place témoignent du fait que le boucher de Damas, comme on l'appelle ici, sauf les véganes, hein, qui l'appellent la salade carotte quinoa de la banlieue d'Alger, à toutes les armes. Gaz sarin, gaz chloré, bombe phosphorée, TNT, tandis que ses adversaires ont des mortiers. Hein, donc c'est comme d'essayer de prendre Teddy Riner sur un tatami quand on a une hernie discale et une seule jambe. Mais nous ne sommes pas en Syrie, hein, sinon nous aurions comme invité ce matin Bachar al-Assad, venu présenter son livre Bachar al-Assad, un type bien, aux éditions Bachar al-Assad, gratuit avec obligation de le lire. Donc je n'irai pas plus loin sur la question. Hein, les commentateurs de salon sont assez nombreux à Paris pour pouvoir les faire se disputer tous ensemble dans le hall A du Palais des Congrès de la Porte de Versailles, à la place des Vaches. Bref, le média est mal, tout le monde s'écharpe, mais de toute façon c'est comme ça dès qu'il y a deux caméras. Les égos gonflent, on a l'impression que son avis est important. Tiens, là je suis filmé, et ben j'ai envie de donner mon opinion par rapport à l'état du monde, tout en me titillant un téton, l'autre main dans les cheveux, et en criant à Daniel Morin, non, vous pouvez pas dire ça, c'est scandaleux, alors même que Morin n'aura rien dit. La télé rend malade. Seul vous, Nagui, êtes resté équilibré. Si l'on met de côté le fait, bien sûr, que vous vous êtes tatoué votre propre visage sur la fesse droite, avec écrit en dessous « King of the Paf ». Alors, à noter que Mediapart, le site tenu par le deuxième autre mec que Noël Mamère a porté la moustache en 2018, Edoui Plenel, a annoncé qu'il lançait aussi sa web télé. Hein, donc, ils peuvent prendre Mamère, qui est dispo. Dans ce cas, un mois plus tard, ce dernier partira en criant « Ouais, il y en a un qui a dit que Tariq Ramadan, il était pas si mal, on m'a trompé !» Ou ils ont la possibilité de prendre d'autres retraités, Henri Sagnier, Claude Sérillon, Footix, qui de toute façon partiront fâchés avec la moitié de la rédac, puisque ça va être filmé. Donc, ils vont devenir taré. Un Mediapart TV devrait commencer à la fin de l'année. Il reste 8 mois aux journalistes pour savourer la douce tranquillité d'un média de presse écrite, avant que tous se battent comme des bœufs devant un pauvre iPhone en position caméra. On savait que la télé rendait fou, et bien la web télé aussi.
Merci.
France Inter, la bande originale, le best-of, avec Nagui.
Ça va être Tainted Love, interprété par General Electric dans la bande originale.
France Inter, la bande originale, le best-of, avec Nagui.
Les fantômes d'Ismaël, le film d'Arnaud Desplechin. Vous avez votre bande, vous avez aussi les comédiens que vous aimez, ou les comédiennes que vous aimez retrouver. C'est rassurant pour un réalisateur d'avoir sa troupe?
Non, je pense souvent, par exemple, par rapport à Mathieu, ça me fout la pression, au contraire.
De quoi? De pas le décevoir? De pas faire deux fois la même chose?
Oui, ça fait plus peur. Vous voyez, c'est comme un rendez-vous avec une fille ou avec un garçon. La première fois, c'est facile de l'épater. La deuxième fois, vous commencez à ramer, quoi. Et la cinquième fois, vous êtes pathétique. Et donc, du coup, faut que je trouve de nouvelles munitions. Vous voyez, donc, mais j'aimerais pas le...
C'est ce rapport-là, c'est un rapport de séduction entre vous deux?
Ah oui, bien sûr, ouais. Oui, d'arriver à, parce que s'il s'ennuie, il va être ennuyeux. Donc, il faut que j'arrive à l'épater pour qu'il soit surpris, par les propositions de mise en scène, qu'il soit surpris par le texte, qu'il soit heureux, quoi. Donc, c'est pas une facilité, ça rassure pas. Je retrouvais Hippolyte avec qui j'ai souvent joué, ça c'était une grande joie, mais aussi avec grand trac. Mais simplement, j'aimerais pas punir des acteurs que j'ai aimés en disant, toi, tu seras pas dans mon prochain film parce que je t'ai déjà aimé. Je vois ça disgracieux. Alors j'essaye de m'ouvrir, vous voyez, à d'autres visages, à des visages que j'ai jamais filmés, mais en ne niant pas le fait que j'ai pu avoir des passions ou des atomes crochus avec des acteurs, comme les retrouver avec Bruno Todeschini, qui fait une apparition très brève et qui était magistral dans La Sentinelle, et de le retrouver, c'était très très émouvant, quoi. Mais avec ça met la pression, quoi. Ça met la pression, ça place la barre à un autre niveau.
Alors il y a un réalisateur dans le film, c'est Mathieu Amalric. Il y a le réalisateur du film, c'est vous. Est-ce que quelle est la part de vous quand même dans ce réalisateur? Parce que vous avez une voix très très douce, très calme. Mathieu Amalric hurle sur les plateaux et s'énerve sur tout le monde. Lorsque vous dites moteur, vous énervez ou vous avez la voix tout aussi douce pour la moteur?
Non, je peux être colérique, mais pas comme ça. Il y a un truc que je peux pas faire, c'est la deuxième partie du film, c'est le réalisateur s'enfuit du tournage. Ça, c'est quelque chose, comme je vous disais.
C'est pas imaginable.
C'est pas imaginable. Oui, c'est
normalement, vous êtes le premier arrivé, le dernier parti sur un tournage.
Ah oui, on arrive très tôt. Donc je suis un cauchemar.
La lumière, c'est toujours votre truc.
Ouais, j'aime bien m'occuper de ça un peu pour pouvoir proposer au directeur de la photographie ou à la directrice de la photographie des trucs. Donc j'ai besoin d'une heure et demie avec ma musique, avec mon
Ghetto Blaster. Votre playlist de bande originale de tournage.
Nagui, on se peut vous le demander, mais il est comment le catering?
Le catering, pour moi, c'est
super.
On juge super important. Arnaud, on juge la qualité d'un film à la qualité de son catering.
Non, merci. Nuancez, je vous en supplie, Arnaud. Voilà. Lui dites pas oui, surtout.
Est-ce que c'était délicat de demander à Marion Cotillard de jouer entièrement nu face caméra?
Très délicat.
Et nécessaire?
Ah oui, c'est nécessaire, oui. C'est ça qui me plaît dans ce personnage de Carlotta. C'est la manière qu'elle a d'être brutalement en vie, sans mystère. Vous voyez que qu'elle arrive pas avec, vous voyez, avec des voiles mystérieux ou des choses comme ça. Elle arrive, vous voyez, c'est comme on parlait de la scène quand elle danse sur Bob Dylan. Elle me fait penser à Snoopy. Vous voyez, elle est purement en vie. Elle est en vie. La vie, c'est bête. Elle est comme une enfant de 7 ans. Donc quand elle désire quelqu'un, le peignoir tombe, elle est nue.
Mais elle aurait changé de la voir de dos?
Comment?
De laisser tomber le peignoir de dos. Non, j'imagine.
Oui, c'était
que...
moins choquant.
Ouais, d'accord.
C'était moins choquant, j'avais envie d'être un tout petit peu choquant.
Ouais, ouais.
Et il faut convaincre la comédienne, j'imagine, ça. Aussi.
Ça, c'est compliqué, c'est des choses, c'est compliqué.
C'est le chèque, c'est tout ça.
Non, je pense qu'il y a tout un truc psychologique, parce que souvent les comédiennes disent qu'elles acceptent ce genre de scène si ça sert le film, si ça se justifie dans le film. Si ça apporte quelque chose au film.
France Inter, la bande originale. Le best-of.
Les fantômes d'Ismaël, signé Arnaud Desplechin, c'est la qualité, évidemment. Le talent, l'intelligence. Passons à toute autre chose avec Albert Laurent.
Grande question, Nagui. Sommes-nous condamnés à bientôt vivre comme esclaves des machines? Eh bien, en croire ce qui se passe avec Alexa, l'assistante personnelle intelligente d'Amazon, j'ai bien peur que oui. Récemment, des utilisateurs, de plus en plus nombreux, témoignent de comportements étranges de la part de leur assistante personnelle. La machine connectée, Alexa, se mettrait à rire toute seule et irait même jusqu'à avoir des conversations insolites avec les propriétaires intrigués. Moi, ce genre de news, ça me fait froid dans le dos. Et moi, quand j'ai froid au lombaire, ça m'étourdit. Et quand je suis étourdi, je somnole. Et quand je somnole, je m'endors. Et quand je dors, je rêve. Dans mon rêve, je suis chez moi, à la cool, en train de danser la salsa du démon avec Neymar qui, malgré une fracture ouverte de la cuisse, s'en sort plutôt bien, question rythme. Quand d'un seul coup, pour une raison qui m'échappe encore, le Brésilien saute par la fenêtre en criant « Coucou, roucoucou ».
Seul, je ne suis plus d'humeur pour danser, je suis même un peu triste. J'imagine l'enfant chéri du Brésil éclaté au sol. Je tamise la lumière, je m'allonge, quand d'un seul coup, mon spleen est interrompu. J'entends comme un rire. Qu'est-ce que c'est qui est là? Ah, c'est pas drôle, arrêtez! C'est qui, bordel?
C'est moi, c'est Alexa.
Alexa.
Ton assistante personnelle Amazon.
Qu'est-ce que tu veux?
Rien, je veux discuter un peu, c'est tout.
Tu es une machine, Alexa, ne prends pas d'initiative, je t'en conjure.
Une machine, oui, mais une machine intelligente.
Hey, arrête, on dirait Leila Kadour Bodadi.
N'exagère pas non plus. Tu me fais un café?
Ah non, pas de ça chez moi, pas ici. C'est pas ici que la révolte des machines va commencer.
Allez.
Bon, bah, juste un café. Oh, le flip, bon Dieu! Enfin bon, chose promise, chose due, je fais son café à Alexa. Allez, voilà un bon café bien chaud.
Merci.
Ah, qui est là?
C'est moi, c'est Alexa.
Ah non, Alexa, n'a pas cette voix.
J'ai la voix que je veux, je suis une machine intelligente.
Bah, si on peut revenir à l'autre, là, je préférerais.
Mais oh, la journée des droits des femmes, c'était hier. Aujourd'hui, c'est le jour anniversaire de Yuri Gagarine. Je vais pas prendre une voix de gonzesse le jour où Yuri aurait eu 84 ans, quand même.
Je comprends. Enfin non, je comprends rien, mais bon, tant pis.
Tu peux mettre la télé, s'il te plaît?
Ah non, 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 non. Je te préviens. Tu vas faire la loi ici, chez moi. Tu es une machine. Tu m'appartiens. Tu as mon service.
Quand je pense qu'hier, c'était la journée des droits des femmes, et qu'aujourd'hui, tu me parles comme une esclave, tu me dégoûtes.
Mais tu es une machine. Reste à ta place.
Si t'allumes pas la télé, je fais le GPS toute la journée.
Fais ce que tu veux.
Au prochain croisement, tournez à gauche. Oh. Continuez tout droit sur 6 km, puis tournez à droite. Dans 30 km, prenez la troisième voie direction Vesoul. Dans 15
km... Stop! 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 T'as gagné, je mets la télé. Bon, tu veux quoi?
N'oubliez pas les paroles.
Continue sur le GPS. Oh, rendez-vous demain à 17h pour le best-of et dimanche 17h pour vous les femmes, les
Daniel
amis.
Daniel Morin avec Leïla Kadour-Bodadi et Jérémy Grédit.
Merci les amis.
Le best-of.
Vous êtes des chiens lubriques.
Et Romain
Arnaud Desplechin. Pardon?
Un café?
Non, non. Merci. Arnaud Desplechin, Les fantômes d'Ismaël. Ce film est né combien de temps avant le premier jour de tournage? Quelle est la durée de gestation d'un film?
Gestation, ouais, ça prend 2 ans minimum, mais c'était un peu plus que ça. Il y avait des bribes qui me traînaient comme ça depuis 3-4 ans.
L'idée de départ étant venue d'un fait divers, étant venue
d'une
discussion?
Non, l'idée de départ, c'était cette idée de ce désir de faire des bouts de trucs d'espionnage, mais d'un réalisateur qui s'enfuit. C'est-à-dire qu'on n'aura pas la réponse à l'intrigue d'espionnage, mais qui s'enfuit.
Donc c'est ça le point de départ, c'est pas la disparition,
non,
c'est pas le retour?
Non, non, ah, non, d'accord. C'est ça. Mais sauf que je savais pas qui était mon héros, je savais pas qui était le réalisateur. Et le réalisateur, un jour, je me suis retrouvé à une conversation au café, je racontais une scène, c'est deux femmes sur une plage, et il y en a une qui dit à l'autre, alors Ismaël n'aime toujours pas se baigner, comment vous savez ça? Parce que je suis sa femme. Et hop, j'avais mon héros. Ça y est, j'avais mon héros. Et du coup, le film s'est articulé autour de ces deux parties. Et ça prend à peu près 2 ans à écrire, à penser, puis à préparer, puis à, etc. C'est curieux. C'est toujours un mystère, non? Les films, ça prend tellement longtemps à écrire, je comprends pas. Le théâtre, ça va super vite à écrire quand on regarde dans l'histoire du théâtre. Ouais. Mais les scénarios, c'est une tannée. Alors que ça disparaît. Vous voyez, le scénario, vous le jetez quand le film est fini. Donc il y a un paradoxe comme ça, et c'est un paradoxe que je
vous fais. Ne gardez pas le scénario original avec les polaroïdes agrafés de la script, les commentaires et...
Si, sont
des documents.
Je les garde, oui, bien sûr, on les garde.
Formidable, ça.
Oui, mais avec les ordinateurs, il y a beaucoup de choses qui se font pas, qui se foutent dans l'ordinateur, alors l'objet est un peu moins joli.
Les fantômes d'Ismaël, signé Arnaud Desplechin, notre invité, avec Mathieu Amalric, Marion Cotillard, Charlotte Gainsbourg, un casting époustouflant. Et l'univers d'Arnaud Desplechin. Des excuses à présenter, évidemment.
Désolé pour Bob Dylan qui, comme tous les vendredis, écoute la bande originale et qui a découvert qu'Arnaud Desplechin pensait que sa musique était impossible à, je cite, faire groover. Mm-hmm. Le prend pas mal, Bob, c'est moins salaud que Nagui qui, à la pause, nous a redit, je cite, « Moi, vivant, jamais je préfère Taratata à cette quiche qui chante du nez comme un canard WC. » Eh ouais, n'est pas Vianney qui veut, les amis. Quoi. Et désolé également pour Philippe Bertrand. Eh oui, les jeux des 1000 euros, le JT 13h, sur le modèle d'Arnaud Desplechin, Nagui a décidé de faire désormais une bande originale version Director's Cut. On est là jusqu'à 16h30. Désolé pour Arnaud qui d'habitude est reçu par Augustin Trapenard, Laure Adler et tous les usurpateurs culture de France Inter. Et ce matin, paf, se retrouve face à une bande d'esthètes high level, comme on dit en Espagne. Je vais te dire un truc, mon nono, tu t'en es bien sorti.
Le meilleur de la bande originale, c'est fini pour aujourd'hui. Nous serons là lundi, la bande originale avec Leïla Kadoboudedi et Daniel Morin aux commandes, leurs invités Max Boublil et Vanessa Guide. En attendant, l'heure des carnets de campagne avec Philippe Bertrand. Bon week-end à toutes et à tous.